Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Jeudi 15 mars, j'ai rendez-vous au sein de l'entreprise Prélude SA pour rencontrer son directeur. Ni une ni deux, je saute dans ma voiture et prends la direction de Reconvilliers. Perché sur les hauteurs de la commune, dans une petite rue résidentielle proche de l'école, l'entreprise occupe un grand bâtiment ancien. Je trouve la porte sur le côté, entre, l'odeur d'atelier industriel flotte dans l'air, ça sent l'huile, le métal, les machines. Je m'annonce à la réception, la secrétaire m'accueille et m'invite à la suivre dans un grand ascenseur pour monter de quelques étages. Arrivé à destination, je traverse un couloir et entre dans une grande pièce. À ma gauche, une étagère où trône délivrée des bibelots. Face à moi, un petit coin cosy avec une table basse entourée de canapés et de fauteuils rouges et blancs. Non loin se trouve un grand bureau un peu caché derrière une plante qui fait face à l'entrée. Je contourne l'étagère et me retrouve devant une grande table de réunion disposée en diagonale. Elle peut accueillir une dizaine de personnes. Mon invité est là. Il me serre vigoureusement la main. Il m'invite à m'asseoir. Un verre d'eau plus tard, la discussion se lance. Avec lui, pas de chichi. Le franc-parler est au rendez-vous. Pierre-Michel Rezzo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Pierre-Michel Rezzo, pour commencer, en quelques mots, Prélude SA, c'est quoi ?
Prélude SA, c'est une entreprise sociale ou une institution qui s'occupe principalement de personnes handicapées, et en situation de handicap ou en difficulté sociale, et qui produit toutes sortes de produits, je vais dire, de sous-traitance.
Voilà, donc de la sous-traitance, ouais. En quelque sorte un atelier protégé, mais qui fonctionne donc comme une société anonyme. On y reviendra un peu plus tard, mais avant cela, on va s'intéresser à votre parcours, on va parler un peu plus de vous. En 1981, vous obtenez votre diplôme de mécanicien de précision et travaillez quelque temps dans l'industrie traditionnelle, mais ça ne vous convient pas. Pour quelles raisons ?
C'est-à-dire que ça ne convient pas, c'est surtout moi qui ne convenais pas à ce métier. Je sentais que je n'avais pas un don particulier pour cela. J'ai fait des efforts, mais je me suis vite rendu compte, ouais, vite, il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que ce n'était pas fait pour moi, tout simplement.
Qu'est-ce qui ne jouait pas ?
Oh, écoutez, je n'étais juste pas doué.
Juste pas doué. Alors, en 1987, vous acceptez la situation et vous acceptez aussi un peu par hasard un poste de chauffeur aux ateliers protégés de Reconvilliers. Et là, tout s'emballe. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Alors, c'était en 89. C'est pas très grave. Et puis, oui, tout s'emballe. Ça veut dire que j'ai pris ce poste pendant 15 jours. Et puis, par la suite, ils avaient besoin d'un moniteur en administration. J'ai fait ça. Je connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai appris sur le tard. Et puis, en 93, je suis devenu responsable de la production qui correspondait mieux à mon expérience professionnelle. Et puis, à partir de là, j'ai été 45 ans, à peu près. Et puis, à partir de là, en 97, le directeur a arrêté chez nous. Et puis, j'ai repris son poste de manière AI pendant 3 ans, et en 2000, j'étais nommé directeur de l'APR à l'époque.
Et lors de notre rencontre, vous m'avez dit qu'à vos débuts, vous avez eu un peu peur, puis vous avez trouvé le métier intéressant, et que c'est finalement devenu une profession de foi. Qu'est-ce qui vous faisait un peu peur déjà au début, et qu'est-ce qui a amené cette évolution ?
Écoutez, au tout début, en tant que chauffeur, on avait un atelier qui était dans l'enceinte de la clinique de Bellay, qui s'appelait clinique de Bellay à l'époque, et la première fois que j'ai été livré, je suis tombé sur un monde un peu particulier, et sur une personne qui était en crise, et qui me courait après en m'appelant Jésus, et là je me suis dit, c'est pas mon truc. Puis à partir de là, ayant passé ce cap, ça m'a pris 2-3 jours, et puis effectivement, avec le temps, je me suis rendu compte que ce métier n'était pas un véritable métier, mais c'était une véritable vocation.
Alors vous l'avez dit, hein, ensuite vous êtes devenu directeur ad intérim, puis officiellement directeur en 2000, vous avez pratiquement tout appris sur le tas de cette profession, de ce milieu. Est-ce qu'aujourd'hui un tel parcours vous semblerait encore possible ?
Non, je ne pense pas, ça veut dire que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de gens qui pourraient faire ce parcours-là, mais aujourd'hui, les formations sont importantes, les formations, c'est une formation HES, la direction de l'institution sociale maintenant est managée en véritable, gestionnaire de chiffres, etc. Donc c'est un métier qui est un peu différent aujourd'hui. Des gens comme moi, il y en a encore, mais c'est des vieux.
Et c'est mieux ou moins bien qu'avant ?
Oh, écoutez, non, je n'aime pas trop dire que c'était mieux avant parce que ça fait un peu coincer du bulbe. Non, mais c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres avantages. Le métier est très professionnel. Les gens sont très compétents. L'approche est un peu différente. Mais l'essentiel, c'est que les personnes en situation de handicap soient prises en charge de manière correcte. Et ça, c'est toujours le cas, moi, j'imagine.
Alors, on va maintenant s'intéresser à Prélude. Hein, Prélude qui a un an. Auparavant, les ateliers protégés de Reconvilliers étaient une division de la clinique psychiatrique de Bellay, on l'a dit. Comment s'est faite la transition de structure étatique à société anonyme privée ?
Alors, en 2016, si je ne me trompe, ça passe tellement vite, le réseau sentimental n'avait plus besoin de nous. les services psychiatriques n'avaient plus besoin de nous. Et au mois de mai 2016, on a été licencié pour l'ensemble du personnel. Et il était programmé une fermeture ou un rapprochement avec une autre institution, etc. Tout ça, ça a duré jusqu'en septembre. On a amené un projet qui datait déjà depuis nous une année ou deux. On sentait le vent tourner. Et puis en septembre, on a reçu l'autorisation de partir dans une fondation ou au départ une fondation. Et nous, on a choisi la société anonyme pour différentes raisons. Puis on a créé ça en 6 semaines. Et le 15 décembre, l'affaire était réglée.
Donc un gros bouleversement, tout le monde qui est licencié, des gens qui sont repris.
Ouais.
Comment ça s'est passé au niveau du climat? On imagine que c'était
mais
pas
alors, écoutez,
évident.
Mais écoutez, étonnamment, on a tous été licenciés. Donc effectivement, il y avait des tensions. Il y avait des gens qui avaient l'opportunité de prendre des retraites anticipées de manière très importante, sur 3, 4, voire 5 ou 6 ans. Et puis ces gens-là les ont reprises. Et puis malheureusement, 3 ou 4 personnes n'ont pas pu être réengagées. Parce qu'on avait, nous, un souci, effectivement, d'être rationnel pour l'année 2017. On voulait faire très attention à cela. Donc, on a engagé 8 personnes sur les 16 qui étaient là au départ.
Et concrètement, le fait de devenir une société anonyme, qu'est-ce que ça a changé dans votre fonctionnement?
Mais en fait, ça a changé. Ce qui a changé, c'est l'état d'esprit. Et encore, il est encore en mutation. Mais l'état d'esprit change dans le sens où la responsabilité de chacun est très importante. Ça veut dire qu'avant, on avait une grande clinique qui s'occupait de nous avec des ressources humaines, une comptabilité, etc., qui était très lourde. Hein. Et puis, on avait derrière un canton qui couvrait, si on perdait de l'argent, etc. On faisait partie d'un gros système. Là, la responsabilité est différente. On est tous membres du personnel responsables de faire tourner ce machin, pour être clair. Donc, à partir de là, l'état d'esprit a changé.
Vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes en réinsertion sociale. Pour elles, est-ce que ce changement s'est aussi ressenti?
Oui, je pense que oui. Ça veut dire que, déjà, ils ont accepté cette transition, ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Donc, ils ont tous fait l'effort de se dire, on va participer à Prélude. Et ils l'ont fait de manière magnifique. À partir de là, il y a des changements qui ont eu lieu. Bien sûr, on a été plus restrictifs dans certains domaines. Il y a les gens timbres. Mais par contre, les gens ont un contrat de travail, quand ils sont malades, ils sont payés, ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient en thérapie. Et puis, il y a des pots de cigarettes qui ne sont plus payés, etc. Donc il y a une structure beaucoup plus entreprise qui se met en place, encore toujours aujourd'hui. Mais les gens ont une volonté folle et ils participent complètement au projet Prélude.
Lorsqu'on parle d'ateliers protégés pour personnes justement en situation de handicap ou en difficulté sociale, le grand public a souvent l'image de petits travaux d'occupation. Est-ce que c'est une image contre laquelle vous devez vous battre au quotidien?
Oh, c'est une image, je ne sais pas si on doit se battre, mais disons qu'il y a une partie de vrai, une partie de pas vrai. Ça veut dire qu'effectivement, on a encore aujourd'hui des travaux qui sont des travaux relativement simples, mais qui sont nécessaires parce qu'on a une population diverse. On a des gens en situation de handicap qui ont énormément de capacités, d'autres très peu. Et comme nous, dans notre concept d'exploitation, on accepte absolument tout le monde, du moment que la volonté est là, il y a des gens pour lesquels il nous faut des travaux simples. Mais on a aussi des machines CNC, on fait des pièces magnifiques, on travaille pour le domaine dentaire, c'est pas rien. Donc on a un peu tout un panel, en fait.
Et est-ce que ça vous complique la tâche pour trouver de nouveaux partenaires, justement?
Mais écoutez, l'image que l'on donnait peut-être, l'image que l'on donne aujourd'hui par Prélude, l'engagement d'un commercial aussi à partir de l'année passée a amené une image qui est en train de changer. Donc on est de véritables partenaires industriels aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous êtes une vraie entreprise et plus considérée comme une institution?
On a toujours été une vraie entreprise, mais l'image, effectivement, maintenant, est plus proche de ce que les gens imaginent.
Et en termes de produits, rapidement, quelles sont aujourd'hui vos compétences et vos domaines d'activité?
On a tellement de compétences qu'on n'aurait pas le temps de l'émission, mais je vais vous donner les principales. Dans le domaine de la mécanique CNC, on a une multitude de compétences avec des machines 4, 5 axes, des tours, etc. Dans le domaine de tout ce qui est multiservice, on a une multitude de compétences puisqu'on a des gens qui sont prêts à faire tout. Donc on a des travaux très simples, on a du travail électrique, des montages de réglettes, etc. Donc on fait beaucoup de choses, on est prêt à faire d'autres choses encore.
Alors, pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de Prélude SA, Nadia est venue glisser son micro dans vos ateliers et a fait de belles rencontres, son reportage.
Sortie de boîte.
Yannick Ladoué, je suis responsable commercial et marketing au sein de chez Prélude.
Pour moi, Malik Nacha, je suis responsable de production.
On démarre la visite?
On y va. Voilà, multiservice, c'est un des plus grands départements avec une septantaine de collaborateurs. Donc c'est des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale. On a des compétences très diverses. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et ça, c'est vraiment une force.
Après, bien sûr, notre but principal, donc aussi en termes de production, c'est d'adapter tous nos travaux, donc justement aux capacités de chacun de nos employés.
Bonjour.
Bonjour.
Très bien, enchanté. Vous travaillez ici chez Prélude. Comment ça se passe? Écoutez, pour l'instant, ça se passe même bien. Il y a beaucoup de boulot, il y a une bonne ambiance, donc c'est le top. Voilà.
Vous êtes ici à Prélude depuis combien de temps?
J'ai commencé à mi-janvier. Je suis ici en stage pour faire une réinsertion professionnelle sur demande de l'AI.
Vous appréciez travailler ici?
Alors, j'apprécie de travailler ici pour l'ambiance. J'ai préféré Prélude à d'autres ateliers plus proches de mon domicile. Justement pour ça, pour le fait qu'il y ait une cafétéria où on peut fumer aussi, l'ambiance est plus sympa. Les moniteurs, les médecins professionnels, le personnel de cadrement est très proche des personnes qui sont dans cet atelier, et puis on arrive bien à discuter. Il n'y a pas de grande distance entre nous et les médecins socio-professionnels. En fait, c'est des tâches de manutention qu'on fait dans cet atelier. Alors, ça peut être dans le cadre de l'horlogerie, du tri de pièces, ça peut être des boîtes à nettoyer, ça peut être des sachets de joints à préparer, ça peut être des votations, donc mettre des papiers dans des enveloppes. C'est très diversifié, il y a beaucoup de travail dans l'atelier.
On a parfois des travaux qui demandent typiquement des machines spécifiques. Donc là, c'est le client en fait qui nous met à disposition le matériel, je dirais, pour mener à bien les travaux qui nous remettent.
Vous appelez comment?
Moi, Noël, j'habite à Saul.
Vous êtes en train de faire quoi là? Vous voulez me montrer un petit peu ce que vous faites?
Non, on nettoie les boîtes avec du papier. Mm-hmm. On enlève, voilà, comme ça. Et puis ça enlève bien avec ça. Et puis ça coule. Hein. Après, on frotte avec la résine. Mm-hmm.
Puis après, avec ces boîtes, vous allez faire quoi?
Je sais pas. Il faut demander à.
Vous allez faire quoi avec
Simon? Alors on les nettoie, on les reconditionne et ensuite on les relivre à notre client en fait.
Après je joue l'accordéon, je chante. Ouais.
Ça c'est vos
animateur de l'atelier.
C'est vos hobbies.
Il faut chanter une.
Ah ben volontiers.
Baby Babylon, eh ouais c'était Babylon, la la la.
Merci beaucoup, bravo.
On va dire le but premier, c'est quand même de les accompagner justement dans la réinsertion professionnelle. Et puis pour nous, on peut dire que la mission, elle est réussie une fois que le collaborateur en fait a trouvé, on va dire, une place de travail dans une entreprise, on va dire, dite standard.
Mathieu Rezzo, responsable logistique. Bienvenue dans mon antre. Ici, c'est mon bureau. On a le secteur logistique est composé de différents sous-secteurs, si on peut dire ça comme ça. Contrôle final, cafétéria, tout ce qui est partie conciergerie, entretien interne au bâtiment.
Patricia, vous voulez venir dire quelque chose?
Vous travaillez ici à la cafétéria, vous faites quoi?
Je sers à manger, je fais la vaisselle, je nettoie tout et puis je mange ici.
Puis tout au long de la journée, vous avez de quoi vous occuper?
Oui. J'ai le mardi de congé, tout le mardi, pour aller à la piscine, aller faire des achats, les rendez-vous. Et puis, autrement, je travaille les autres jours.
Sortie de boîte.
Alors Pierre-Michel Rezzo, on a pu l'entendre dans le reportage, il y a une grande convivialité entre vos employés et les membres de l'encadrement. C'est une chose à laquelle vous faites particulièrement attention aussi?
Mais écoutez, c'est fondamental. Ce qui veut dire qu'on est en atelier, on travaille, on fait de la production, on travaille pour l'industrie, c'est une chose. Mais le plus important pour nous, c'est que les personnes qui sont chez nous, qui sont des personnes qui méritent un travail, qui méritent un travail de qualité et une reconnaissance, soient dans une ambiance le plus adaptée possible. Tout n'est pas parfait, hein, faut pas rêver. Mais disons que de manière générale, on essaye de tout faire pour que l'ensemble des collaborateurs aient un travail et une ambiance intéressante.
Alors à la différence d'une institution étatique, une société anonyme doit avoir des objectifs de rentabilité. Hein. Est-ce qu'une entreprise comme Prélude peut vraiment être rentable?
Non. Alors écoutez, on a un contrat de prestation avec le contrôle Berne qui nous soutient. Et puis si on n'avait pas ça, on ne tournerait pas, il ne faut pas rêver. Donc on a un chiffre d'affaires, donc bien sûr, on a d'autres prestations, on a des ventes, etc. D'autres sources de financement, mais sans le contrat de prestation du contrôle Berne, on ne tourne pas.
Et donc pour vous, l'objectif, vous m'aviez dit, c'est d'avoir environ 50% de contrats de prestation et 50% de financement propre.
Absolument. Donc ça serait le rêve. On n'y est pas, de loin pas. On débute, mais disons que l'idéal, l'équilibre entre les deux serait magnifique.
Alors dépendre entièrement de l'État, ça offre aussi une certaine sécurité, hein, vous le disiez au début, un certain confort, puisqu'il n'y a pas besoin d'être rentable. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif en termes d'intégration pour vos collaborateurs, de savoir que finalement, peu importe ce qu'on fait, l'argent est là?
Non, alors, je pense que ça, c'est une erreur. Ça veut dire que, non, peu importe, l'argent n'est pas là. Ça veut dire qu'on a un travail à faire, on a... Le fait de s'occuper de personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale nécessite un énorme travail d'accompagnement, et c'est notre rôle premier. C'est pas la sous-traitance, le rôle premier. Donc effectivement, il y a un soutien par rapport à ça. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'argent. Ça, c'est une évidence. Le jour où on perd de l'argent, on ferme.
Mais justement, par rapport à avant, le fait d'avoir cette situation-là, ça a aussi changé l'état d'esprit ou peut-être l'engagement de vos collaborateurs?
Oui, alors bien sûr, tout le monde est conscient de ce qui se passe, tout le monde a accès en tout cas à une partie des chiffres. Mais il ne faut pas que ce soit l'essentiel. Ça veut dire que tout le monde connaît ça, tout le monde a pris la responsabilité. L'ensemble de nos collaborateurs ont pris la responsabilité de ça, sont conscients. Mais le principal, c'est qu'ils aient un cadre toujours adapté et qu'ils soient toujours un cadre protégé quand même.
Vous m'avez aussi dit qu'avant d'être une société anonyme, vous pensiez être performant alors que vous ne l'étiez pas du tout. Qu'est-ce que ça signifie?
Mais écoutez, on a toujours eu, et ça c'est l'autosatisfaction, vous savez, c'est du classique. On pensait qu'on était très bon, on n'était sûrement pas très mauvais non plus. Mais on s'est rendu compte que quand on a dû se battre, et puis on a dû être moins, et puis on a dû mettre en place des choses qui financièrement étaient plus difficiles, etc. On s'est rendu compte que on était nettement plus performant avec une volonté, mais c'était une histoire d'état d'esprit, hein, c'est tout. On s'est rendu compte que la performance augmentait, je peux pas vous le dire en pourcentage, mais de 30, 40, voire 50%.
Le modèle que vous avez adopté semble unique, ou en tout cas très rare en Suisse. Ça suscite aussi de la curiosité dans d'autres structures similaires.
Alors écoutez, oui, on nous dit souvent que notre structure est unique, je sais pas pourquoi exactement, mais il semble que ce soit le cas. Alors oui, on a des institutions vaudoises, par exemple, qui s'intéressent à nous par rapport à cette structure. Oui, alors, suscite de l'intérêt, de la curiosité, je ne sais pas. Mais disons que notre structure me paraît à moi idéale.
On va maintenant s'intéresser au marché que vous touchez. Hein. Votre externalisation vous a poussé à prospecter de nouveaux marchés, à diversifier vos activités. Quelles sont les pistes que vous souhaitez développer ces prochaines années, justement?
Alors écoutez, il y en a multiples. Écoutez, pour l'instant, on est dans une phase encore de pérennisation. Ça veut dire qu'on s'est créé l'année passée, on était très en souci, on n'était pas sûr d'y arriver. On y est arrivé de manière magnifique, et ça grâce à tous nos collaborateurs et le personnel d'encadrement. Cette année ici, on est déjà en train de se dire, bon maintenant on s'installe, on se pose. On a des projets relativement importants, mais on va se poser, on va s'organiser de manière correcte. Puis à partir de l'année prochaine, on va commencer à développer de véritables projets d'extension, de développement de l'industrie ou autres.
Par rapport à l'industrie, hein, vous étiez assez peu présent, je crois, dans l'horlogerie, où vous travailliez peu avec l'horlogerie auparavant. Maintenant, vous le faites plus. Justement, là aussi, qu'est-ce qui vous a ouvert ces portes-là? Écoutez, le besoin aussi de devoir prospecter.
Alors, effectivement, l'arrivée de notre commercial qui vient du monde horloger nous a ouvert certaines opportunités dans ce monde-là. Il y a encore un énorme travail parce que le monde horloger est très important, mais on a bon espoir de continuer à se développer dans ce domaine-là. Et il y aura d'autres domaines, comme le domaine médical, puisqu'on a maintenant une grosse performance dans le domaine dentaire, dans les scanners dentaires. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'opportunités.
Alors, on l'a très rapidement abordé tout à l'heure. Vous vous battez aussi pour que vos employés obtiennent plus de reconnaissance. Comment est-ce que ça doit se traduire, cette reconnaissance?
Mais écoutez, je pense que principalement, c'est notre travail. Ça veut dire que les collaborateurs qui viennent chez nous, y compris le personnel d'encadrement, mais principalement les collaborateurs qui viennent chez nous, se lèvent le matin, tous les matins à 5 heures, pour un salaire, une indemnité salariale qui est très peu élevée. D'ailleurs, souvent, les transports publics leur coûtent plus cher que le salaire. Puis ça, on doit le reconnaître. Ça veut dire que nous, ce qu'on veut déjà reconnaître, c'est la volonté de gens qui n'auraient pas forcément le besoin de venir parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup plus, mais qui viennent parce qu'ils ont besoin de ces structures professionnelles. Et c'est ça qu'on doit défendre depuis des années, qu'on essaie de défendre depuis des années. Et là, on va vraiment s'y attacher en communiquant un maximum là-dessus. Et après, il y a la qualité de leur production qui est absolument magnifique.
Alors, un prélude, c'est ce qui précède ou qui annonce quelque chose. En musique, c'est une pièce instrumentale qui sert d'introduction. Ce nom, c'est pour faire comprendre que vous visez plus grand qu'avant ou plutôt pour passer un message à vos employés que quand ils sont là, c'est annonciateur de quelque chose d'autre par la suite.
Quelque chose d'autre par la suite. Vous savez, nous l'année passée, on a été très heureux de sauvegarder ce qu'il y avait à sauvegarder. Chaque année est une nouvelle expérience, il faut être ambitieux, bien sûr. On est en train de mettre en place un plan stratégique jusqu'à 2022, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas ça, ça veut dire que nous, on a vraiment envie que nos collaborateurs puissent participer au maximum à cette nouvelle organisation, à ce nouveau défi. C'est un défi tous les jours, en fait. Et puis, jusqu'en 2022, il y aura beaucoup de défis à relever. Et ça veut juste dire qu'on travaille ensemble. Alors, je ne vais pas dire qu'on a une grande famille, mais par moments, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même.
Alors, des ateliers de prélude SA, on passe à un atelier destiné aux enfants. C'est la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Depuis plusieurs années, Val de Travers a pris l'habitude de célébrer le changement d'heure. Pour le passage à l'heure d'été, samedi dernier, Vaucher Manufacture Fleurier ouvrait ses portes au public et les enfants qui s'étaient inscrits ont pu construire leur propre horloge. Je vous propose d'en suivre un.
Alors là, je te remets la première pièce de l'horloge que tu vas construire. Tu vas faire un parcours avec ton papa, avec des postes. On va te poser des questions. Et sur ce parcours, tu vas récolter les autres composants de ta pendule. Ensuite, tu viendras ici, tu vas pouvoir la monter, l'assembler et repartir avec. Bonne visite.
Raoul, vous êtes venu avec votre fils ?
Mon fils Alexandre, oui. Il va avoir 10 ans au mois d'avril.
Construire sa propre horloge, c'était une idée qui a séduit Alexandre ou vous ?
Un peu les deux. Je suis assez fan de montres. Et puis, je pensais que ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour un petit enfant. On doit aller au numéro 2, donc on est au numéro 1. Ça ne devrait pas être très compliqué.
Ici, on est au bureau technique. Il n'y a pas de machine pour fabriquer les pièces d'horlogerie. Par contre, on les dessine. On dessine sur l'ordinateur, comme vous voyez derrière vous. Et puis la question du poste, juste pour aider à comprendre aux enfants qu'il y a toujours trois dimensions qui constituent un objet. Une longueur, une largeur, une hauteur. Il faut trouver... Quel est l'axe qui définit la hauteur ? Est-ce que c'est X ? Est-ce que c'est Y ? Ou est-ce que c'est Z ?
Z. L'estampage, c'est comme une perforatrice, sauf que nous gardons le rond en papier. Après avoir bien regardé la presse, dis-moi où arrive la pièce. Faut passer où là, les flèches, c'est comme ça.
Alors, qu'est-ce que tu gagnes ?
Une petite roue. C'est les mêmes.
Une roue.
Merci.
Allez, ta collection.
Une nouvelle roue.
C'est parti.
Essayez déjà.
Facile. À toi de construire ta pendule et n'oublie pas de signer ton travail.
T'es prêt ?
Ouais. Alors.
Le numéro 1 est ici. Alors, on va prendre quelle pièce ? Ah, c'est la A qu'il faut prendre. C'est la toute grosse.
C'est la toute grosse. C'est là.
Alors maintenant, il y a la pièce E.
E, c'est celle-là. L'étoile, il faut la mettre. Ben, celle qu'on a essayé d'avant. Donc ça, ça doit être là. La vis, elle doit être là, là et là.
Tu t'es bien amusé, Alexandre ?
Oui.
Donc là, tu as monté l'horloge. Elle est finie, ton horloge ?
Enfin, presque.
T'es content ?
Oui.
Tu la trouves jolie ?
Oui.
Est-ce que c'était difficile ?
Non.
Tu vas pouvoir mettre ta signature ou est-ce que tu vas la mettre, tu crois ? Parce que les horlogers, tu sais, les grands horlogers à l'époque, ils mettaient toujours leur nom sur l'horloge qu'ils fabriquaient ou sur la montre.
Mais ici.
Parfait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Raoul, le papa d'Alexandre ? Comment c'était ce parcours ?
Ça s'est très bien passé. C'était didactique et ludique, donc c'était une belle expérience.
J'ai l'impression que vous êtes autant amusé que votre fils.
Oui, oui, tout à fait.
Pile à l'heure.
Avant de nous quitter, Pierre-Michel Redzo, un mot sur les valeurs de votre entreprise. Vous dites que ce qui compte au sein de Prélude, c'est avant tout les relations humaines, le sentiment d'appartenir à une famille et d'œuvrer pour un projet commun. Est-ce que vous pensez que l'industrie traditionnelle devrait aussi s'en inspirer de ces valeurs-là ?
Mais écoutez, je pense, elle devrait s'en inspirer sûrement, mais je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui s'en inspirent. J'entends de plus en plus de gens qui mettent en valeur les ressources humaines de manière positive, hein, pas forcément de manière négative. Il y a une prise de conscience de manière générale, et dans nos régions, je crois que ça existe encore, ouais, vraiment.
Alors ce sera le mot de la fin, on arrive déjà au terme de cette émission consacrée à l'entreprise Prélude SA. Nous étions en compagnie de son directeur Pierre-Michel Redzo, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec un plaisir, merci.
Et puis si vous souhaitez réécouter cette émission dans son intégralité, vous pourrez la retrouver sur notre site internet sous la rubrique émission dans le courant de la soirée. Et la semaine prochaine, Sortie de boîte fait grimper la température avec Solo Suisse, une entreprise spécialisée dans les fours industriels. Nancy Chapuis accueillera la directrice de la firme Anne-Sophie Sperisen. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et une belle fin de semaine.
Sortie de boîte.